Vous écoutez RTL.
Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. E no, ti sbagli, Maurizio. L'inferno per te deve ancora venire.
Tu m'avais dit que quand tu trichais en imitant la signature de ton père, tu avais connu l'enfer. Tu te trompais, Maurizio. L'enfer est devant toi. Bonsoir. Argent, sexe et jalousie. Règlement de compte chez les très riches dans une famille qui ressemble à s'y méprendre à celle incarnée dans la série Dallas. Crime ce soir chez les Gucci, une dynastie italienne dont le seul nom évoque la mode et le luxe absolu. Des boutiques dans le monde entier, une griffe destinée à une clientèle privilégiée. C'est derrière ce décor plaqué or que s'est joué au printemps 1995 un spectaculaire assassinat. Celui du flamboyant playboy Maurizio Gucci, héritier de la marque et richissime businessman. Une mort tout aussi brutale qu'imprévisible qui a toutes les allures d'un contrat. L'enquête va alors longtemps naviguer dans les méandres de l'empire Gucci et dans ceux d'une famille où semble régner depuis des lustres. Fâcherie, inimitié et trahison. Va ainsi surgir dans ce paysage l'ex-épouse de Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, l'une des plus belles femmes de Milan, habituée à la chronique People, et qui va basculer dans la chronique judiciaire. Elle va être surnommée la Veuve Noire. C'est cette histoire criminelle que nous allons raconter ce soir avec nos invités. Histoire qui va bientôt faire l'objet d'un film, House of Gucci, avec Lady Gaga dans le rôle principal. Histoire qui inspire donc désormais le cinéma, mais histoire vraie.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'assassinat de Maurizio Gucci au printemps 1995, en plein centre de Milan. Une exécution en bonne et due forme qui ne va laisser aucune chance au riche héritier, l'une des personnalités les plus en vue du luxe mondial. Ce 27 mars 1995, vers 8h30, Maurizio Gucci, 47 ans, quitte son appartement au numéro 38 du Corso Venezia à Milan. C'est une belle journée. L'homme d'affaires marche d'un pas sportif. Il sait qu'il n'a qu'à traverser le carrefour pour se retrouver via Palestro au numéro 20, le siège administratif de la maison Gucci. Maurizio Gucci est comme d'habitude seul, dépourvu de garde du corps, même si par le passé, il a parfois fait l'objet de menaces, des intimidations qu'il n'a jamais pris au sérieux. L'héritier de la maison de maroquinerie n'a ainsi pas prêté attention à l'homme qui lui a emboîté le pas et le suit à quelques mètres. Maurizio Gucci arrive devant la porte grande ouverte du numéro 20. Il salue d'un hochement de tête le gardien et portier Giuseppe Onorato, puis s'apprête à monter les marches. Trois coups de feu claquent à ce moment-là. Les deux premiers le touchent à l'épaule sous l'omoplate. Le troisième perfore le haut de la cuisse. Insuffisant pour le tuer, mais suffisant pour l'immobiliser. Maurizio Gucci est stupéfait, il se retourne vers son portier. L'inconnu lui tire alors une quatrième balle en pleine tête. Le tueur s'enfuit, il fait feu sur le portier qui se jette au sol, Giuseppe Onorato, et par miracle, seulement blessé au bras, il est le seul témoin d'un crime qui visait l'un des hommes les plus riches au monde. Les secours n'ont pas pu ranimer Maurizio Gucci. Les massages cardiaques n'ont servi à rien. Ce dernier était déjà en état de mort cérébrale quand ils sont arrivés. La brigade criminelle de Milan, la Criminal Pol, est également sur les lieux. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le tueur a utilisé manifestement un pistolet qui tirait des balles de calibre 7,65. Des témoins ont vu l'homme s'engouffrer dans une voiture conduite par un complice, une Renault Clio de couleur verte, une voiture certainement volée. Un règlement de compte plutôt professionnel, même si le tueur n'était certainement pas un tireur d'élite. Le gardien blessé, Giuseppe Onorato, est entendu sur son lit d'hôpital. Il ne peut donner qu'un signalement très vague de l'assassin, un homme de taille moyenne, très brun et très nerveux. La nouvelle de la mort de l'héritier Gucci se répand comme une traînée de poudre. Radio, télé, journaux, tout le monde s'en empare. Source immédiate de spéculation en tout genre. Le procureur adjoint en charge du dossier, Carlo Nocerino, pense aussitôt à un règlement de compte sur fond de litige financier. Tout est possible, dit-il, mais la piste privilégiée est celle du business. Les transactions financières dans lesquelles était impliquée la victime, c'est ce qu'affirme alors le magistrat. L'enquête va longtemps se concentrer sur la piste financière, la seule qui vaille a priori au sein de cette famille qui a très souvent été divisée et où l'argent règne en maître de génération en génération. Mais est-ce la bonne piste ? Un différend commercial, une dette non honorée, un détournement de fonds peuvent-ils être à l'origine de la mort de Maurizio Gucci ? Le procureur Nocerino explique que les investigations vont porter sur les comptes bancaires de la victime. Enquête qui pourrait s'étendre jusqu'en Suisse, à Saint-Moritz, où vivait la plupart du temps l'héritier, un pays dans lequel il faisait des affaires. Maurizio avait cédé 2 ans auparavant une partie de l'empire familial. Le personnage avait par le passé défrayé la chronique judiciaire, démêlé avec le fisc, accusé aussi d'avoir imité la signature de son père, blanchi finalement par la cour de cassation italienne. À la fin des années 80, l'héritier avait été au cœur d'une guerre familiale sans merci pour reprendre les rênes de l'Empire. Il s'était heurté à son cousin Paolo, des cousins qui en étaient presque venus aux mains lors d'une réunion de famille où, après des bordées d'insultes, un magnétophone avait volé en l'air. Un litige qui s'était retrouvé sur la place publique et devant un tribunal de Manhattan à New York. Depuis cette époque, agité, le climat s'était apaisé et les cousins n'avaient plus fait parler d'eux. Les Gucci sont des querelleurs, mais ce ne sont pas des tueurs, déclare alors un intime de Maurizio Gucci. L'héritier continuait toutefois d'attirer les convoitises, affichant un train de vie exubérant, voiture de luxe, résidence huppée, achat d'un somptueux voilier qui appartenait au milliardaire grec Niarchos. Même si la piste financière demeure privilégiée, la brigade criminelle dirigée par le commissaire Filippo Nini continue d'explorer celle du tueur et de son complice, les deux seuls hommes qui apparaissent pour le moment dans le paysage du crime. Les informateurs sont sollicités mais forcés de constater que c'est le silence qui s'impose. La CRIM milanaise étudie aussi le profil privé de Maurizio Gucci, un homme marié en 1972 à Patricia Reggiani Martinelli, une femme ressemblant à s'y méprendre, dit-on, à Elizabeth Taylor, et avec qui il formait un couple le plus glamour de l'époque. 2 filles, Allegra et Alessandra, 16 et 21 ans, un couple séparé depuis le milieu des années 80, mais tout juste officiellement divorcé il y a quelques mois devant un tribunal suisse. Maurizio Gucci, homme à femme, avait eu quelques maîtresses, mais allait se remarier et refaire sa vie avec la décoratrice en vue Paola Franchi. 2 ans vont ainsi se dérouler sans que l'enquête ne débouche. L'affaire Maurizio Gucci semble alors être condamnée à être non résolue, un cold case à l'italienne, jusqu'à ce coup de fil reçu le 8 janvier 1997 par le commissaire Filippo Nini. C'est un informateur qui l'appelle. Ce dernier dit avoir reçu les confidences d'un gardien de nuit d'un hôtel minable de la rue Lully, lequel se serait vanté d'avoir trouvé le tueur qui a abattu Maurizio Gucci. Témoignage aussitôt pris au sérieux, même si le gardien de nuit, surnommé Sauvignon, a peut-être tendance à raconter n'importe quoi après avoir bu quelques verres. Une bombe qui peut exploser. Mais l'enquête sur la mort de Maurizio Gucci s'accélère, elle, brutalement. Il ne va désormais falloir que quelques semaines aux policiers pour reconstituer le vrai scénario du crime. Un règlement de compte dicté par la colère et l'argent. En ce mois de janvier 1997, la brigade criminelle de Milan s'intéresse de près au dénommé Ivano Savioni, surnommé Sauvignon, gardien de nuit dans un petit hôtel. Il s'est vanté d'avoir recruté le tueur de Maurizio Gucci. Il est placé sur écoute, fait curieux. Il semble cette fois rechercher un homme pour faire peur à l'ancienne épouse de la victime, Patricia Reggiani, dans le but de lui extorquer de l'argent. Autre curiosité, le gardien de nuit est en contact avec une certaine Pina Oriema, une voyante, une cartomancienne qui est une amie intime de l'ex-épouse de Gucci. Les deux femmes se sont connues il y a une vingtaine d'années lors d'un séjour de vacances. Patricia la consulte régulièrement. Pina, la voyante, a même emménagé chez son amie alors qu'elle était en plein divorce. Les policiers, qui ont un agent infiltré au sein de l'hôtel, ne tardent pas à comprendre le jeu des uns et des autres. Le veilleur de nuit et la voyante feraient chanter l'ex-épouse Gucci en la menaçant de tout dire sur l'assassinat et de révéler son rôle de commanditaire. Le veilleur de nuit est tellement bavard qu'il égrène les noms de toutes les personnes pouvant être impliquées dans le crime, le chauffeur de la voiture et le tueur, deux demi-selles de la pègre milanaise, connus pour violence et trafic de stupéfiants, sont identifiés. Le 31 janvier 1997 au matin, les hommes de la criminelle Paul interpellent les 5 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de Maurizio Gucci. Patricia Reggiani est arrêtée chez elle, dans l'appartement de son ex-mari, un logement qu'elle a réintégré après le crime, comme si elle n'avait jamais divorcé. Ses deux filles sont là, elle est en chemise de nuit. Aux enquêteurs, elle dit simplement « Je sais que vous venez m'arrêter pour la mort de mon mari ». En dépit de cet accus prometteur, Patricia nie les accusations. Elle n'a jamais commandité l'exécution de Maurizio, même si elle ne le portait plus dans son cœur. Pour les policiers, la veuve a bel et bien voulu se venger du divorce imposé par l'héritier Gucci. Par le passé, elle aurait demandé plusieurs fois à sa gouvernante si par hasard son mari ne connaîtrait pas des tueurs. Elle explique qu'elle fanfaronnait sous l'effet sans doute de la colère, des mots, rien que des mots. Dans son journal intime, en date du 27 mars 1995, jour de l'assassinat, elle note le mot « paradeisos », paradis en grec. Elle explique qu'il s'agit d'une sorte de célébration pour rendre hommage à Maurizio et aussi le nom qu'elle voulait donner à sa future villa. Patricia Reggiani reste sur ses positions. Elle n'a jamais demandé à qui que ce soit de tuer son ex-mari. Les juges l'entendent d'une autre oreille. Elle sera donc jugée avec ses 4 présumés complices pour assassinat. Au mois d'avril 1998, Patricia Reggiani apparaît dans le box vitré de la cour d'assises de Milan. Le procès va durer 6 mois et l'ex-épouse est bien décidée à prouver son innocence. Sa ligne de défense est toute simple. Elle n'a cessé de la répéter alors qu'elle était en détention provisoire à la prison San Vittore. Elle a certes souhaité la mort de son mari, en a rêvé à plusieurs reprises, mais elle n'aurait jamais demandé à qui que ce soit de presser sur la détente. Elle se présente comme une victime. Les véritables coupables la faisaient chanter. Par peur, elle a payé. Lors de l'enquête, la police a toutefois retrouvé un versement de 360 000 euros destiné à l'équipe, cette femme et ses hommes qui comparaissent avec elle. Le chauffeur de l'expédition certifie en pleine audience qu'elle est bien la commanditaire. Elle répond avoir été manipulée. Je demandais à tout le monde de me trouver quelqu'un pour me débarrasser de mon mari. Je l'aurais même demandé à mon charcutier. C'était une obsession, indique l'ex-épouse lors du procès, ajoutant qu'il s'agissait de paroles en l'air. Pina Oriema, son amie voyante, dit elle aussi que Patricia est bien la donneuse d'ordre. L'ex-épouse lui répond que c'est elle qui a tout manigancé, fait abattre son mari, puis lui a fait porter le chapeau pour lui extorquer de l'argent. Pour l'accusation, Patricia Reggiani est bien derrière l'assassinat. Tout d'abord parce qu'elle voulait absolument se venger d'un mari qui l'aurait abandonné avec leurs 2 filles. Deuxièmement, parce qu'elle craignait que l'héritage Gucci lui passe sous le nez avec le remariage programmé de Maurizio. Elle disposait pourtant d'une rente annuelle de 200 000 euros, d'un appartement à Milan, d'un autre dans l'Olympic Tower à New York, d'un 3-mâts de 65 mètres. Mais tout cela ne lui aurait pas suffi. Le 4 novembre 1998, le président de la cour d'assises, le juge Ludovici, annonce le verdict. Tout le monde est reconnu coupable. 29 ans de prison pour Patricia Reggiani, 25 ans pour la voyante, perpétuité pour le tueur Benedetto Ceraulo. Lady Gucci, comme la présente la presse italienne, est menottée. Elle quitte la salle d'audience, les larmes aux yeux. La cour d'appel de Milan va confirmer le verdict de première instance. Peine réduite toutefois de 3 ans, 26 au lieu de 29 pour l'ex-épouse Gucci, qui va tout de même passer presque 18 ans derrière les barreaux. Patricia Reggiani aurait pu quitter la maison d'arrêt San Vittore dès 2011. Mais il lui aurait fallu pour cela accepter un travail d'utilité publique. Elle aurait ainsi bénéficié d'un régime de semi-liberté. Elle a refusé en expliquant « Je n'ai jamais travaillé de toute ma vie, ce n'est certainement pas maintenant que je vais commencer ». 2 ans plus tard, alors âgée de 63 ans, elle finit par accepter cette proposition, mais en choisissant un emploi à sa mesure. Elle est consultante pour la société Beaux-Arts, spécialisée dans les bijoux fantaisie et accessoires de mode. Dès sa sortie de prison, elle est poursuivie par une nuée de paparazzi. Elle ne se cache pas comme si elle avait traversé toutes ces années sans rien changer à ses habitudes. On la suit alors qu'elle fait du shopping via Monte Napoleone, la rue des boutiques chics de Milan. Elle se promène avec un perroquet sur l'épaule et continue à porter des tailleurs chics. Une partie de sa pension de veuve lui étant toujours versée. Patricia Reggiani va donner des interviews Dans l'une d'elles, elle déclare « Je dois avouer que pendant un moment, j'ai vraiment voulu me débarrasser de lui, mais mes intentions se sont arrêtées là. C'était juste un désir. Quelle épouse n'a jamais dit « Je vais le tuer, ce type ?» Patricia Reggiani, premier rôle d'un crime qu'elle a toujours nié, en dépit des preuves accablantes et de sa condamnation, apparaîtra bientôt au cinéma. Son rôle, interprété par Lady Gaga, un film intitulé « The House of Gucci », la maison Gucci. Elle trouve bon le choix de l'actrice pour l'incarner. Elle regrette simplement que Lady Gaga ne l'ait pas contactée. Un manque d'élégance, a précisé la femme qui fit tuer le richissime mari qu'elle détestait.